RCF.
L'Hebdo-Région, le magazine d'information proposé par les rédactions de vos radios chrétiennes en Pays de la Loire.
Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue si vous nous rejoignez. Plus que deux semaines avant de voter pour le premier tour des élections présidentielles, comme chaque semaine, nous donnerons la parole à un acteur de la société civile pour connaître ses attentes concernant le prochain gouvernement. Aujourd'hui, c'est une agricultrice sartoise qui s'exprime. Nous resterons dans ce département pour évoquer la pause spirituelle de la semaine, la reconstitution des funérailles du Christ dans la commune de Vion à l'occasion de la Semaine Sainte, une première en Europe. Autre première, la création d'une salle de sport unique en France dans le Maine-et-Loire près d'Angers. Elle focus dans une dizaine de minutes sur cette structure adaptée où se côtoient valides et personnes handicapées. Il a fait de sa passion son métier. David Audibert a monté il y a 13 ans son cabinet de généalogiste successoral. Ils sont 500 en France. Leur rôle, rechercher les héritiers des personnes décédées sans famille connue. Un véritable travail d'enquêteur qui amène souvent à de belles histoires. Enfin, côté sortie de la semaine, nous irons en Vendée où se tient le Salon du Livre de Montaigu, le plus grand dans l'ouest de la France. 250 auteurs participent à l'événement. Voilà pour ce qui vous attend dans cette hebdo-région présentée par la rédaction de RCF Anjou en collaboration avec les autres radios chrétiennes des Pays de la Loire.
En route vers les présidentielles.
Et sans plus attendre, direction la Sarthe où nous attend Aubery Métro. Bonjour Aubery.
Bonjour Bastien.
À un peu plus de deux semaines du premier tour de l'élection présidentielle, vous vous êtes entretenu avec une agricultrice qui a fait la une de l'actualité il y a quelques mois.
Oui, Christa Thomas a signé une lettre pour alerter sur la détresse des femmes dans le monde agricole. Ce texte a été lu à l'Assemblée nationale devant les députés. Il a été très médiatisé. Alors depuis, Christa est retournée dans son élevage de chèvres à Auvers-le-Hamon dans le sud du département. Mais son quotidien est toujours aussi compliqué.
La plus grosse difficulté que l'on rencontre aujourd'hui, c'est une difficulté de prix. Donc, c'est-à-dire qu'on ne se rémunère pas. Donc, ça, c'est très, très embêtant quand on a des factures qui s'amoncellent et qu'on ne peut pas payer. Donc, ça, c'est un premier point. Le deuxième point, en tant qu'éleveur, c'est de ne pas avoir de temps libre, en fait, de vivre un peu en marge de la société de ce fait. Moi, j'ai deux enfants en bas âge, de ne pas pouvoir m'en occuper comme je voudrais, de ne pas pouvoir acheter de vêtements pour eux, voilà, et de ne pas pouvoir faire autant d'activités que je voudrais, de ne pas prendre de week-end, de ne pas prendre de vacances. Voilà, c'est ça une année bien occupée pour une femme en plus, parce qu'on a notre maison à s'occuper et puis qu'on a des besoins, nous aussi, de féminité qu'on ne peut pas accomplir, en tout cas.
Alors, qu'est-ce que Christa Thibault attend du prochain gouvernement, Aubery ?
Eh bien, elle attend surtout d'être comprise par le gouvernement, mais aussi par nous, simples citoyens, qui pouvons, à notre échelle, améliorer un peu la situation des agriculteurs en changeant, par exemple, nos habitudes de consommation.
Je ne pense pas que le gouvernement puisse faire énormément de choses. Je pense qu'il faut un vrai challenge de citoyens, on va dire. Il faut que les gens commencent à consommer autrement. Mais si l'État doit faire quelque chose, c'est accompagner notre agriculture et donc les agriculteurs qui commencent vraiment à tirer la langue et à ne plus en pouvoir. La preuve, ce sont ces suicides qui n'en finissent pas et se multiplient. Donc il faut vraiment, vraiment, vraiment accompagner nos agriculteurs et puis les comprendre, parce que là, on a vraiment l'impression d'être en marge de cette société. Donc il faut rééquilibrer les choses, nous permettre d'embaucher, nous permettre de survivre pour qu'on puisse continuer à nourrir les gens de façon équitable.
Christa sait que les pouvoirs publics n'ont pas de baguette magique, mais pour elle, il y a tout de même des choses très concrètes à mettre en place.
Alors, les institutions publiques peuvent notamment faire des lois pour que nous soyons pris en charge par la sécurité sociale quand on est en burn-out ou en dépression. À l'heure actuelle, si on est en burn-out, on n'est pas remplacé. Si on est remplacé, il faut qu'on le paye, donc on n'a pas les moyens de payer quelqu'un. C'est nous accompagner tout bêtement en réduisant nos charges patronales dans un premier temps, à vraiment travailler sur le fait de communiquer avec nous pour que nous puissions donner des solutions puis faire bloc contre une industrialisation un peu trop forte, un peu trop puissante, on va dire.
Et comme chaque semaine, faisons un peu de politique fiction à présent. Quelle serait la première mesure de cette éleveuse de chèvres si elle était élue présidente de la République ?
Eh bien, elle mettra en place des mesures pédagogiques pour mieux faire comprendre au grand public, par exemple, les enjeux de la filière agricole.
Ma première mesure concernerait l'agriculture, je m'explique. La première façon de vivre, c'est déjà de manger et de boire. Donc si en agriculture, en France, ça devient n'importe quoi, je ne sais pas comment le reste va survivre. Donc pour moi, il faut que ce soit une priorité, que ce soit l'agriculture. Et après, alors moi, je suis qu'à ce niveau-là, je ne peux pas dire. En éducation, sûrement qu'il y a des choses à faire, mais pour moi, ce qui est vraiment prioritaire au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment nourrir les gens de façon à ce que nous, on puisse en vivre. La deuxième chose super importante, ça serait quand même de remettre les points sur les i à nos chers industriels qui se jouent un peu de nous et qui deviennent de plus en plus puissants. Ah, comment je ferais ? Ah, moi, je ne suis pas politicienne, je ne suis pas une grande juriste, mais je pense qu'il faudrait reprendre le pouvoir d'une façon ou d'une autre.
À défaut de devenir présidente, Christa Thibault agit à son échelle dans le Sud-Sarthe puisqu'elle a lancé il y a quelques mois une antenne de la ruche qui dit oui à Sablé. Il s'agit d'un groupement de producteurs qui vend directement aux consommateurs au juste prix.
Et merci Aubery pour ces précisions. On vous retrouve dans moins d'une minute pour évoquer la pause spirituelle de la semaine. Avant cela, quelques informations en bref. C'est un numéro qu'il va falloir retenir, le 116-117. Il est gratuit et permettra de joindre un médecin de garde les soirs, le week-end ou les jours fériés. Ce dispositif est testé actuellement en Pays de la Loire, en Normandie et en Corse avant d'être étendu à toute la France d'ici la fin de l'année. Le but est de soulager le répondeur du SAMU, le 15, numéro réservé aux urgence grave est disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Cette mesure fait partie de la loi santé votée il y a quelques mois. 600 salariés du Crédit Agricole Loire-Atlantique Vendée étaient en grève mardi. Ils protestaient contre la décision de la direction qui prévoit de fermer 29 agences sur les deux départements ainsi que des réductions de jours d'ouverture dans 36 autres. Selon un délégué CFDT, cela représenterait une diminution de 35% du maillage territorial.
L'Hebdo-Région. Pause spirituelle.
Et nous retrouvons tout de suite Aubery pour la pause spirituelle de la semaine. Prochainement, Aubery, les Sartois auront l'occasion d'assister à une reconstitution des funérailles du Christ.
Et oui, c'est une première en Europe. Les funérailles auront lieu le vendredi saint dans le Sud-Sarthe, à Vion précisément. Cela se déroulera dans le parc du sanctuaire diocésain de Notre-Dame-du-Chêne. Et ça fait plusieurs mois que Virginie Marty travaille sur cet événement. Elle est bénévole auprès des Amis de Notre-Dame-du-Chêne.
En fait, habituellement, les funérailles du Christ dans l'église latine se réalise toujours à Jérusalem et à Washington. Et cette année, il y aura en même temps, en plus, Notre-Dame-du-Chêne. C'est quand même la commémoration des funérailles du Christ, comme il l'aurait vécu. Donc chaque moment sera vécu avec beaucoup de recueillement. Il y aura une procession dans le parc du Saint-Sépulcre, en passant par certaines étapes du calvaire que Jésus a vécu, donc le dépouillement de ses vêtements, la colonne de déflagellation, mais aussi la crucifixion. Ensuite, on sera devant la croix et on enlèvera sa couronne, et puis clou par clou. Ensuite, on le descendra avec un drap blanc en écharpe et on le déposera sur la pierre de l'onction. Et là, l'évêque, avec la myrrhe et l'aloès, va oindre cette statue du Christ avec des bras escamotables pour pouvoir rabattre ses bras délicatement et le déposer au Saint-Sépulcre.
Et les aromates viendront directement de Jérusalem. Ils ont été ramenés par une fidèle qui est allée en voyage là-bas il y a peu de temps.
Alors l'endroit où vont se dérouler ces funérailles n'a pas été choisi au hasard.
Exactement, car outre la beauté du parc, c'est surtout un lieu exceptionnel où il y a plus d'un siècle a été construit l'exacte copie du Saint-Sépulcre de Jérusalem. Le père Alain Dominique est le recteur du sanctuaire diocésain de Notre-Dame-du-Chêne.
Le Saint-Sépulcre a été construit en 1896 lors d'un pèlerinage à Jérusalem avec une croix qui a été taillée dans les bois de Parcé-sur-Sarthe. La croix a fait le chemin de croix de la Via Dolorosa à Jérusalem et à son retour à Notre-Dame-du-Chêne, l'édicule a été construit. L'édicule exacte copie conforme à celui de Jérusalem. Il a été construit à cette époque-là. Donc ça fait 120 ans que dans le parc du Saint-Sépulcre de Notre-Dame-du-Chêne, il y a ce bijou qui est trop peu connu, hélas, qui a déjà été reconstruit juste avant l'an 2000, mais qui va être reconstruit encore l'année prochaine.
Et la Semaine Sainte est l'une des plus importantes fêtes religieuses de l'année pour les catholiques. Alors forcément, cela doit avoir un symbole particulier pour le recteur du sanctuaire.
En effet, et c'est avec une certaine émotion que le père Alain Dominique parle de cette soirée.
Le symbole, c'est que c'est le noyau de notre foi, c'est que le Christ qui s'est fait chair, qui s'est incarné dans le sein de Marie, il a été descendu de la croix dans les bras de Marie, et puis comme un grain de blé, il a été jeté en terre, dans un tombeau, creusé dans le roc. Et c'est de là que tout a été recréé. Je crois que c'est un peu le mystère que l'Église vit actuellement. On vit une persécution, on vit beaucoup de souffrances. C'est un peu comme si le Christ était encore enfoui, insuffisamment connu, même chez les chrétiens. Et on veut vraiment que Notre-Dame du Chêne, c'est-à-dire son Saint-Sépulcre, puisse être une lumière qui jaillit dans les ténèbres de notre monde pour que plus de personnes puissent vraiment vivre ce mystère, parce que c'est pour ça que nous avons été créés finalement aussi.
L'Office pour les funérailles du Christ se tiendra donc le 14 avril, jour du Vendredi Saint, à 21h30 dans le parc du sanctuaire de Notre-Dame du Chêne à Vion. Et toute la cérémonie se déroulera de nuit à la lumière des flambeaux.
Merci Aubery pour ces précisions. Cette fois, c'est bon, je vous libère. Enfin, rendez-vous tout de même la semaine prochaine. Dans le reste de l'actualité religieuse, sachez également que vos radios chrétiennes des Pays de la Loire délocalisent leur studio à partir de lundi. RCF Anjou, RCF Vendée ainsi que Fidélité Mayenne s'installent au prieuré de la Côtellerie en Mayenne pour vous faire vivre un temps spirituel lors des trois premiers jours de la Semaine Sainte. Au programme, retransmission des offices, témoignages de vie des frères, reportages sur leur quotidien et leurs activités, principalement tournée vers le monde agricole. Rendez-vous donc lundi matin dès 7h pour vivre ce début de semaine sainte en communion avec la communauté des chanoines réguliers de Saint-Augustin du Prieuré de la Côtellerie. Nous poursuivons notre magazine, c'est l'heure de la rubrique Initiative.
L'Hebdo-Région, Initiative.
C'est une salle de sport unique en France qui a ouvert ses portes il y a quelques jours. À Beaucouzé, près d'Angers, deux jeunes entrepreneurs ont décidé de se lancer dans la création d'un espace où la pratique du sport est accessible à tous, valide comme personne handicapée. Bonjour Maria Goyer.
Bonjour Bastien, bonjour à tous.
Alors le nom de cette structure, Cap Adapt.
Et oui Bastien, alors au premier abord, l'établissement ne peut pas de mine. Implanté dans la zone industrielle de Beaucouzé, à côté d'Angers, Cap Adapt ressemble à une salle de sport traditionnelle et pourtant, c'est bien plus que cela, selon Tanguy Mercer, professeur de sport à l'origine du projet.
C'est un espace du coup qui est adapté, c'est-à-dire les machines sont adaptées pour recevoir un public valide ou en situation de handicap. Tous les fauteuils s'enlèvent par exemple, on peut venir en fauteuil roulant, il n'y a aucun problème. Tout est médicalisé. Il y a un espace santé aussi qui permet de poursuivre l'accompagnement, à savoir les kinés, ostéos, diététiciens par exemple. C'est d'avoir dans un seul et même endroit tout cet accompagnement. Et donc une partie gymnase aussi qui permet de faire des activités adaptées. Au début, on se demande qu'est-ce qu'on va faire en cet endroit-là. Et finalement, les parcours d'appui, d'équilibre, de ballon, tout ce qui est motricité, coordination, jeu de raquette, j'en passe et des meilleurs. On peut faire vraiment des choses qui sont adaptées, d'où le nom aussi Cap Adapt.
Vous l'aurez compris, Cap Adapt combine à la fois sport et santé. D'ailleurs, l'idée de base, c'est de proposer aux patients à leur sortie de l'hôpital des équipements pour poursuivre leur rééducation. Une idée inspirée par une expérience personnelle, car après une carrière de coach sportif de haut niveau, Tanguy Mercer a exercé en centre de rééducation sur Angers. Il revient sur la genèse de ce projet.
Cap Adapt, c'est la rencontre avec Alexandra, donc qui est mon associée maintenant, que j'ai rencontrée en centre de rééducation au Capucin, qui a eu un accident de la route il y a 2 ans et demi. Donc elle était en phase de post-sortie et les médecins lui disaient il faut continuer l'activité physique ou quoi, comment, ce sont les questions. Moi, j'étais arrivé au même constat avec mes différentes expériences par le passé et donc c'est tout naturellement qu'on s'est rejoint et qu'on a enclenché la route vers ce projet.
Donc là, vous rencontrez Alexandra, vous dites il manque finalement une offre, on va se lancer là-dedans.
Et il manque quelque chose, c'est une évidence, on va se lancer, on en est quasiment persuadé. Comment, c'est la grande question. Financièrement, c'est un coût énorme, trouver la structure, et après, quand il y a un obstacle de surmonter, il y en a encore 25 autres derrière, face à avoir toutes les modalités pour mettre un projet à bien, au niveau des banques, au niveau des assurances, au niveau des comptables, au niveau de tout ce qu'on a pu entreprendre, les travaux, les machines, voilà. Et puis, c'est quelque chose qui n'existe pas et qui n'existait pas. Donc par rapport à ça, il fallait convaincre les gens autour de nous que oui, il y a vraiment une vraie demande, il n'y a pas que nous qui en sommes convaincus.
La preuve en est, Tanguy Mercer reçoit régulièrement, depuis l'ouverture de Cap Adapt, des appels de porteurs de projets un peu partout en France. Des entrepreneurs intéressés pour reprendre la formule, mais qui attendaient un vrai retour d'expérience avant de se lancer, car le but du projet est surtout de répondre à un besoin bien plus que faire du profit.
Quand on ouvre la porte d'ici, on se rend compte que c'est pas une salle de sport classique, j'ai envie de dire. Après, il en faut pour tous les goûts, donc les cours collectifs et ainsi de suite, il y en a pas chez nous. Très franchement, avoir 500 personnes, ça nous intéresse pas. Bien sûr, il faut vivre, mais le but, c'est vraiment l'accompagnement, le suivi, la prise en charge de la personne et vraiment tenir compte de la personne dans son voilà, dans sa globalité, et être au plus proche, répondre au plus proche de ses besoins. Pour l'instant, on a une quinzaine de personnes qui viennent faire leurs séances de manière régulière, on va dire. Quel profil ? Il y a vraiment de tout. Personne valide, personne en situation de handicap, personne en surpoids. C'est très très large et c'est aussi ce qui fait... Voilà, on s'éclate à travers ça parce qu'il y a des profils complètement différents. On doit vraiment s'adapter. Il n'y a pas une séance toute faite et tu prends et tu fais ta séance. C'est vraiment, on répond vraiment et les personnes font un petit peu ce qu'elles veulent dans un cadre cadré.
Chaque parcours d'accompagnement est donc individualisé. La première séance n'engage à rien. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le site capadapt.fr.
Merci Marie. On peut préciser simplement que la structure est équipée à ce jour de 18 machines, qu'elle compte 3 salariés et que le budget global investi dans ce projet est de l'ordre de 200 à 250 000 euros.
L'Hebdo Région, rencontre avec...
Et c'est à présent le moment de retrouver Samuel Pécaud de Fidélité Mayenne. Bonjour Samuel.
Bonjour Bastien, bonjour à toutes et à tous.
Vous avez rencontré cette semaine un homme heureux qui a fait de sa passion pour la généalogie son métier. C'est en effet l'un des 500 généalogistes successoraux français. Son cabinet d'études est implanté dans votre département, à Argentré précisément, et ses activités sont florissantes depuis 2 ans.
Oui Bastien, il s'agit de David Audibert, l'un des 2 gérants de l'étude généalogique Audibert La Durée. Alors effectivement, il est venu à la généalogie comme des milliers de Français en faisant son arbre généalogique familial. Mais depuis 13 ans, la généalogie successorale est devenue son métier et il a ouvert son étude en Mayenne avec un confrère en 2010. Et comme vous le disiez à juste titre, depuis 2 ans, leur activité se développe grâce à une loi adoptée en 2014 qui oblige désormais les banquiers et les assureurs à rechercher les bénéficiaires de contrats d'assurance vie dits en déshérence. C'est-à-dire ces dizaines de milliers d'héritiers qu'on ne connaissait pas et qui jusqu'à présent donc ne touchaient pas les sommes que leurs parents avait placé dans ses assurances vie, soit tout de même plus de 5 milliards d'euros selon l'autorité de contrôle de la Banque de France.
Tout à fait, ça implique de plus en plus l'intervention du généalogiste. C'est la loi Eckert du 13 juin 2014 qui a imposé cette obligation aux assureurs de retrouver les bénéficiaires de contrats d'assurance vie dits en déshérence. Donc il y a une obligation de vérifier si le souscripteur est toujours en vie ou pas. Et lorsqu'il est décédé, l'assureur a 10 ans pour retrouver les bénéficiaires du contrat d'assurance vie. Comme bien souvent, les décès remontent à un certain temps et que l'assureur n'en a pas été informé immédiatement, le généalogiste, effectivement, est de plus en plus amené à intervenir dans ce cadre pour retrouver les héritiers.
Et donc, comment vous retrouvez les héritiers ? Quel est votre travail ?
Alors, ça s'apparente quasiment à un travail de détective, puisqu'on part bien souvent seulement d'une information, c'est-à-dire l'identité de la personne qui est décédée, ses dates et lieux de naissance, ses dates et lieux de décès, et il va falloir reconstituer tout un tableau généalogique en identifiant bien le degré des héritiers qui vont hériter, justement, soit des descendants, éventuellement des enfants, des petits-enfants, ou des collatéraux, frères, sœurs, neveux, nièces, éventuellement des cousins. Donc ça va nous amener à nous déplacer principalement dans certains dépôts, les dépôts d'archives départementales, dans les mairies, aux greffes des tribunaux de grande instance où sont conservés les registres de moins de 75 ans, registres d'état civil, dans les centres des impôts, etc. C'est vraiment un travail de limier.
Et j'imagine qu'il y a des belles histoires parfois.
Oui, tout à fait. Comme celle d'un monsieur qui était décédé, qui avait plusieurs enfants, dont l'un était malheureusement SDF, que j'ai dû retrouver dans une grande ville de l'ouest du pays, et à qui j'ai signé au règlement de la succession un chèque de 40 000 euros. Et je crois que le plus beau, c'est que le monsieur, totalement désintéressé, m'a dit que l'argent ne l'intéressait pas effectivement, mais qu'il préférait récupérer les photos de famille, que c'était ce qui lui tenait vraiment à cœur.
Et justement, vous êtes payé sur ce montant ? C'est bien ça.
Alors tout à fait, quand les héritiers ne sont pas connus, on va être payé sur ce montant par le biais de ce qu'on appelle un contrat de révélation, c'est-à-dire qu'on révèle un droit héréditaire au moyen duquel eh bien, l'héritier nous rétrocède un pourcentage de la part qui lui revient, un pourcentage qui tient compte à la fois du degré de parenté et puis de l'ampleur des recherches qui ont été menées en effet.
Alors effectivement, votre intervention a un coût, mais sans votre intervention, cet argent serait reversé directement à l'État ?
Tout à fait. Il faut que les gens aient bien conscience qu'on ne va pas juste pianoter pendant 5 minutes sur Internet pour retrouver un héritier. Ça implique des frais de déplacement importants, un temps de travail relativement important. On prend un risque aussi professionnel en garantissant une dévolution successorale. Si on oublie un héritier, c'est de notre responsabilité professionnelle. Et effectivement, sans notre intervention, si on n'identifie pas les héritiers... La succession est en déshérence, donc elle est appréhendée par les domaines, c'est-à-dire par l'État.
C'était donc David Audibert, l'un des deux associés du cabinet généalogique Égal, situé à Argentré, près de Laval.
À des propos de Samuel Pecot de Fidélité Mayenne. Merci Samuel et à la semaine prochaine.
L'Hebdo-Région, si on sortait.
Et le 29e printemps du livre de Montaigu a ouvert ses portes ce vendredi. Et qui de mieux pour nous en parler que Fanny Brevet de RCF Vendée. Bonjour Fanny.
Bonjour Bastien, bonjour à tous. Alors chaque année, près de 40 000 curieux franchissent les portes du salon pour rencontrer les 250 auteurs et 60 exposants présents sous le chapiteau, ce qui en fait le plus grand salon généraliste du Grand Ouest. L'an dernier, 11 000 ouvrages avaient été vendus pendant les 3 jours, soit 10% de plus qu'en 2015. Écoutez Frédéric Couturier, directeur de l'action culturelle à la communauté de communes Terre de Montaigu.
On n'est ni dans une bibliothèque, ni dans une librairie. C'est un salon d'auteurs qui respecte la chaîne du livre, hein, de l'auteur jusqu'au libraire. Mais c'est un salon d'auteurs, ça veut dire que sur chaque titre, l'auteur qui a écrit l'ouvrage est présent pour rencontrer les visiteurs, puisque c'est un salon qui est convivial, chaleureux, où il y a une espèce de bienveillance entre les visiteurs et les auteurs présents. C'est vraiment une envie qu'ont les lecteurs de partager des discussions avec les différents auteurs. Comment est-ce qu'on organise un salon comme ça? Le salon, il tient avant tout du plateau d'auteurs, d'écrivains, d'illustrateurs que vous arrivez à constituer. Il y a une volonté forte de la communauté de communes Terre de Montaigu-Roche-Servière de permettre l'accès à la culture pour tous et à la littérature pour tous. Donc on s'entoure de partenaires et puis ensuite on essaie de choisir une présidence puisque c'est un salon qui est généraliste, qui n'a pas de thématique. Donc en fait la seule couleur que l'on ait sur le salon, c'est la couleur que va nous offrir le président ou la présidente. Et par rapport à cela, on va essayer tout en restant très généraliste parce qu'on veut vraiment que chaque personne, chaque visiteur puisse trouver son bonheur dans les allées du printemps du livre. Puis ensuite, on va essayer de construire un plateau. Et cette année, on a un plateau particulièrement prestigieux dans tous les styles. On a Bernard Minier qui sera là sur la partie un peu plus polar, Agnès Le Dic qui sera avec nous, Angélique Barbera, Marcus Malt qui a eu le prix Femina 2016, Cyril Massarotto, Baptiste Beaulieu. Enfin, il y a un travail tout au long de l'année avec les maisons d'édition, Albin Michel, Lattès, Michel Lafon. Enfin, on se contacte et on travaille ensemble toute l'année. On essaie de faire en sorte... Si vous voulez, nous, on n'est pas dans une logique de concurrence avec différents salons du livre qui existent, donc on essaie de placer stratégiquement notre date de telle manière à ne pas être justement sur des mêmes dates qu'un salon de la même taille ou de la même importance, puisqu'en fait, on a le même objectif, hein, c'est la lecture pour tous. Et puis ensuite, ce travail de collaboration va nous permettre à la fois d'avoir des auteurs confirmés et reconnus, et puis des auteurs qui débutent à qui on a envie de laisser une chance.
Et Frédéric Couturier parlait à l'instant du président, un poste qu'occupait en 2015 Gilles Le Gardinier et en 2016 Bernard Werber. Alors, qui occupera cette place, Fanny, cette année?
Eh bien, les organisateurs ont choisi Françoise Bourdin, auteure aux 9 millions de livres vendus, traduits dans une quinzaine de langues. Elle sera présente sur le salon samedi et dimanche pour des rencontres avec les lecteurs et des dédicaces. Foulke Omaoni lui a demandé quelle a été sa réaction quand elle a appris que ce rôle de présidente lui était confié.
D'abord, ça m'a fait très plaisir. Je trouve que c'est très flatteur, c'est un grand honneur d'être choisi pour présider une manifestation comme le Printemps du Livre de Montaigu. Donc j'étais contente.
Est-ce que vous aviez déjà eu l'occasion de venir justement au Printemps du Livre auparavant ?
Non, je n'en avais pas eu l'occasion, ce qui fait que ce sera pour moi une découverte. En revanche, le président d'honneur de l'année dernière, Bernard Werber, m'en avait parlé avec beaucoup d'enthousiasme.
Et pour la première journée du salon, 3800 scolaires sont venus participer aux animations ce vendredi. Le Printemps du Livre de Montaigu est ouvert pendant tout le week-end, de 10h à 19h, et l'entrée est gratuite.
Eh bien, le rendez-vous est donné à tous nos auditeurs. Merci beaucoup, Fanny. Et puis, si vous souhaitez vous balader également en extérieur, découvrir la nature, eh bien, je vous conseille Terra Botanica à Angers. Le parc du végétal rouvre ses portes au public ce week-end. Vous pourrez y découvrir plus de 5000 espèces différentes. Pour cette 8e année, la direction a décidé d'axer une partie de sa communication sur la rose. Les visiteurs auront notamment l'occasion de sillonner une nouvelle roseraie composée de 2000 plants. L'an dernier, 226 000 curieux sont venus découvrir ou redécouvrir le site angevin. En sport, nous connaissons depuis mercredi les 4 demi-finalistes de la Coupe de France de football, parmi eux le SCO d'Angers. Le club du Maine-et-Loire a éliminé Bordeaux cette semaine 2-1 et n'est plus qu'à une marche du Stade de France. Pour y parvenir, les joueurs de Stéphane Moulin devront battre Guingamp. La rencontre est prévue à la fin du mois d'avril, le 25 ou le 26. 18 sapeurs-pompiers de la Sarthe, 17 hommes et une femme vont participer au marathon de Paris ce dimanche. Ils courront sous les couleurs de l'œuvre des pupilles et orphelins de sapeurs-pompiers de France. Voilà, c'est la fin de cette hebdo région. Votre magazine d'actualité vous était présenté par la rédaction de RCF Anjou en partenariat avec les autres radios chrétiennes des Pays de la Loire. Je vous souhaite un très bon week-end à tous. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Merci encore pour votre fidélité.